Chapitre 13. Cette grande assemblée, composée principalement de gentils, n'avait pas moins de 5 prophètes et docteurs. Leurs noms nous sont donnés, ils sont très instructifs. L'un d'eux a un surnom laissant supposer qu'il était un noir. Niger signifie noir. Un autre était assez important pour avoir été un frère de lait d'Hérode. Barnabas était un juif helléniste. Saul avait été un pharisien convaincu. Et Lucius était probablement un gentil. Ainsi, dès le début, il apparaît clairement que, dans l'assemblée, ni la race ni l'éducation ne sont décisifs, mais le don dispensé d'en haut. Ces hommes servaient non seulement les saints pour les instruire, mais aussi le Seigneur par les actions de grâce, l'intercession et le jeûne. C'est au cours d'une de ces réunions privées que l'Esprit-Saint donne des instructions précises disant que Barnabas et Saul devaient être mis à part pour porter l'Évangile aux nations. Le premier et le dernier d'entre ces 5 hommes sont choisis pour cette mission. Les autres prient pour eux et s'identifient à eux par l'imposition des mains dans le service qu'ils vont entreprendre. Cette imposition des mains n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui ordination, car les deux hommes choisis exerçaient déjà pleinement leur ministère. L'imposition des mains exprime toujours l'identification. Les autres disent en quelque sorte « Nous sommes tout à fait avec vous dans votre mission » et ils peuvent les laisser aller dans une pleine communion, sans jalousie ni rivalité. Même ainsi, c'est en fait l'Esprit-Saint qui les envoie, comme l'indique le verset 4. Ils se rendent d'abord à Chypre, le lieu d'origine de Barnabas, accompagnés par Marc, le neveu de celui-ci. Arrivés à Paphos, ils sont encouragés de trouver le proconsul de l'île disposé à entendre la parole de Dieu. Mais en même temps, ils ont affaire avec l'opposition de Satan. L'opposition des puissances des ténèbres est un signe encourageant plutôt que l'inverse. Élimas était un juif apostat qui s'était vendu au diable pour le servir, et il devient le principal adversaire de l'Évangile à Paphos. Mais si la puissance de Satan s'exprime en lui, celle de l'Esprit-Saint agit en Saul, et il se manifeste d'une manière très frappante et sans équivoque que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, verset 4. Le vrai caractère de cet homme est mis à jour, et la main du Seigneur se pose sur lui en jugement. Il est remarquable que Saul soit employé maintenant pour faire venir sur un autre quelque chose de semblable à ce qu'il avait frappé lui-même. Au bout de 3 jours, les écailles étaient tombées des yeux de Saul. Une obscurité des ténèbres tombe sur Élimas, et elles correspondent parfaitement à l'état ténébreux de son esprit. Le proconsul croit, mais c'est l'enseignement du Seigneur qui l'a impressionné, plus que le miracle. À partir de ce point, Luc donne à Saul son nouveau nom de Paul, signifiant « petit ». Et dès lors aussi, nous voyons l'esprit lui confier une position dominante dans le service et le ministère. C'est ainsi qu'au verset 13, nous lisons « Paul et ses compagnons ». Il y a, pensons-nous, une relation voulue entre le changement de nom et le changement de position. Celui qui est petit devient le chef. Et nous avons là une illustration des paroles du Seigneur en Matthieu 18, verset 4. Cela aurait-il un rapport quelconque avec le fait que Jean-Marc les quitte à ce moment? Nous pouvons nous poser la question. Barnabas, son oncle, était quelque peu mis dans l'ombre. À Antioche de Pisidie, les chefs de la synagogue offrent aux visiteurs de présenter un message, et de nouveau c'est Paul qui saisit l'occasion et parle. Les versets 17 à 41 donnent le compte-rendu de sa prédication, de sorte que nous pouvons nous faire une idée précise de la manière dont Paul présentait l'Évangile à un auditoire composé à la fois de juifs et de prosélytes. Il commence par leur rappeler que Dieu a choisi leur père en Égypte et les a fait sortir du pays, et à partir de là, il va jusqu'au moment où Dieu choisit David et promit un sauveur issu de la semence de cet homme. Il leur présente ensuite Jésus comme étant la semence promise. Jean le baptiseur en a rendu le témoignage. Maintenant, la nouvelle du salut centrée sur ce sauveur était annoncée à tous ses auditeurs, y compris ceux qui parmi vous craignent Dieu, c'est-à-dire les prosélytes d'entre les gentils qui étaient là. » Il leur parle ensuite de la mort et de la résurrection de Jésus, de sa mort causée par la méchanceté des Juifs de Jérusalem, de sa résurrection opérée par Dieu, résurrection attestée largement par des témoins crédibles. Ainsi, il leur présente la bonne nouvelle sous deux aspects. D'abord, la bonne nouvelle que Dieu a accompli sa promesse en suscitant Jésus, allusion à la venue de notre Seigneur dans le monde, selon le psaume 2. Puis, secondement, la bonne nouvelle que si les hommes ont condamné Jésus à mort, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour ne plus devoir retourner à la corruption. Paul voit une allusion à la résurrection dans les grâces assurées de David, Ésaïe 55, verset 3, comme aussi dans les paroles bien connues du psaume 16 qu'il cite. La première citation a été écrite au sujet de David, et la seconde par David. Mais ni dans un cas, ni dans l'autre, l'Esprit de Dieu n'avait réellement David en vue, comme l'indique le verset 36. David ayant, en sa propre génération, servi au conseil de Dieu, a vu la corruption, et les expressions de son psaume ne pouvaient s'appliquer qu'à Christ. Maintenant que Paul a ainsi établi la résurrection de Christ, il en vient au point culminant de son message, l'annonce du pardon des péchés par cet homme ressuscité d'entre les morts. Elle est présentée sous la forme d'un oracle, comme une proclamation divine. Il n'y a pas ici de citation de l'Ancien Testament. « Sachez donc, dit-il, ils devaient recevoir, connaître, ce qu'il leur annonçait, car en fait c'était Dieu qui parlait par sa bouche. » En 1 Corinthiens 2, verset 13, nous voyons que Paul attache l'inspiration du Saint-Esprit à ses paroles, et de ce fait, nous n'avons pas d'hésitation à attribuer la même inspiration à ses écrits qui nous ont été préservés dans le Nouveau Testament. Lorsque Paul dit « sachez », ceux qui croyaient savaient, pouvaient connaître. Et nous savons, pouvons connaître, exactement de la même manière quand nous croyons les Saintes Écritures. Paul ne se limite pas à cette annonce générale de pardon. Il déclare aussi le résultat positif qui suit la foi au message évangélique. Par Christ, le croyant est justifié de tout. Personne ne peut être justifié par les œuvres de loi. Par la foi en Christ, nous sommes justifiés de tout. Nous sommes délivrés de toute accusation qui pourrait être dressée contre nous et revêtus de la justice qui est de Dieu, moyennant la foi. Tout cela dépend de la foi en Christ ressuscité d'entre les morts. C'est par cet homme, par lui. Paul termine son message par une parole d'avertissement, et cela s'accorde avec ce qu'il établit en Romains 1, versets 16 à 18. L'Évangile révèle la justice de Dieu, comme nous venons de le voir au verset 39 de notre chapitre. Mais elle est révélée en contraste avec le sombre arrière-plan de la colère de Dieu. D'où les expressions solennelles des versets 40 et 41. La citation que Paul fait de Habacuc 1, verset 5 est très frappante, car le prophète parle clairement des Chaldéens. Mais bien que l'accomplissement direct de la prophétie les concerne eux, il est évident qu'il y aura un accomplissement final, plus vaste, dans le jugement du jour de l'Éternel. Aucune prophétie de l'Écriture ne s'interprète elle-même. Les versets 43 à 48 montrent que l'Évangile est véritablement la puissance de Dieu en salut à quiconque croit. Les Juifs et les prosélytes sont les premiers à être touchés. Mais lorsque les Juifs, remplis de jalousie, soulèvent une opposition violente, les apôtres se tournent résolument vers les gentils pour leur présenter l'offre du salut. Ils trouvent, en Ésaïe 49, verset 6, un commandement clair du Seigneur pour le faire. De tout temps, la lumière et le salut pour les gentils étaient dans le propos de Dieu. De nombreux gentils croient, et il est ainsi manifesté qu'ils étaient destinés à la vie éternelle. Nous ne savons pas qui est destiné à la vie éternelle, de sorte que nous ne pouvons pas dire à l'avance qui croira. Quand nous rencontrons quelqu'un qui croit véritablement, nous savons aussitôt qu'il est destiné à la vie éternelle. La parole est annoncée non seulement à Antioche, mais dans toute la région avoisinante. L'extension de l'œuvre suscite une persécution telle que Paul et Barnabas doivent s'en aller. Nous pourrions estimer désastreux que ces nouveaux disciples aient dû passer par la persécution et aient perdu ce qui les enseignait. Mais le travail qui s'était opéré dans leurs âmes était si profond qu'au lieu d'être déprimés, ils étaient remplis de joie et de l'Esprit-Saint. La prospérité représente sans doute souvent pour les disciples un danger plus grand que la persécution.